Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou, c'est l'heure du journal au micro Michel Dégé. La lutte contre l'insécurité au centre d'un atelier de renforcement des capacités des chefs traditionnels du département de Téra, c'était à travers un atelier organisé cette semaine. Adoption à l'Assemblée nationale ce samedi du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars US. Ce prêt qui s'inscrit dans le cadre du programme Niamey-Niala va servir à la construction de la voie express reliant l'aéroport de Niamey au centre-ville. Les services de développement de la région de Diffa, handicapés depuis 2015 avec les perturbations de la secte terroriste Boko Haram, le parajuriste Mohamed Makinta trouve cette situation toujours inquiétante. Son analyse est à suivre en partie magazine de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de leur campagne mondiale anti-jihadiste, les États-Unis ont inscrit mercredi le groupe État islamique dans le Grand Sahara sur la liste noire des organisations terroristes étrangères, nous apprend une dépêche de l'AFP. Ce groupe a revendiqué une attaque meurtrière contre des soldats américains au Niger. Ednan Abou Walid, le chef de ce groupe affilié au mouvement djihadiste État islamique basé aux frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger, a également été désigné terroriste mondial par Washington, a annoncé le département d'État américain dans un communiqué repris l'AFP. Les États-Unis ont placé ces derniers mois plusieurs autres branches du groupe djihadiste sur leur liste noire, notamment en Afrique de l'Ouest, aux Philippines ou en Somalie. Droits et devoirs des chefs traditionnels dans un état de droit sur la sécurisation et la gestion du foncier rural, ressources partagées, c'est le thème de l'atelier de formation organisé le 16 mai dernier à l'intention des chefs traditionnels de 5 communes du département de Téra. Il s'agit de Diagourou, Gogol, Kokorou, Mehana et Téra. But et atteinte de cet atelier avec le formateur Kala Moussa, par ailleurs, directeur des affaires coutumières au ministère de l'Intérieur. Il est au micro.
Les chefs traditionnels sont des maillons importants. Donc, l'objectif visé, c'était de les réveiller en principe sur leurs attributions, leurs devoirs, leurs obligations et ce qu'on attend d'eux en termes de coopération avec nos forces de défense et de sécurité pour contribuer à la sécurisation de la zone. Et nous sommes très satisfaits. Ils ont appris beaucoup de choses qu'ils ignoraient auparavant. Maintenant, ils sont engagés à contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité et à la lutte pour le développement de leur terroir. La loi fondamentale de la Constitution, dans l'une de ses dispositions qui consacre la chefferie traditionnelle en disant que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle comme dépositaire de l'autorité coutumière. Et à ce titre, elle participe à l'organisation de l'administration territoriale. Il y a la loi portant statut de la chefferie traditionnelle. Un autre texte fondamental, c'est le texte qui définit les conditions d'organisation des élections des chefs traditionnels. Parce que c'est dans la loi qu'on a défini leur mission. Et c'était dans le cadre de ces missions-là que nous demandons de participer efficacement à lutter contre l'insécurité.
Une panne du troisième forage de la ville d'Abalak, région de Tawa, la semaine dernière, a entraîné la suspension de la fourniture d'eau potable pour les besoins d'une population estimée à environ 23 000 habitants. Le maire d'Abalak sollicite l'appui des partenaires pour la construction d'un forage supplémentaire ainsi que d'un nouveau château d'eau. Le maire Mohamed Billou El Mokhtar au téléphone avec Alamine Ouacha.
En fait, il y a 10 jours, on a une panne dans notre troisième forage. Il faut noter que c'est un forage géré par la Seine. La panne, tous les travaux de diagnostic en fait, il s'est avéré que c'est la pompe. Cette pompe a été remplacée par une autre avec tous les accessoires, y compris les câbles. Pour l'instant, cette panne a été réparée après sans doute 10 jours de moments difficiles. Mais ce qu'il faut noter pour Abalak, c'est que nous avons certainement besoin d'un autre château et certainement d'un autre forage. Parce qu'Abalak, c'est désormais une grande ville, il y a plein de populations, donc les dispositifs hydrauliques qui existent actuellement sont insuffisants pour les besoins de la population. Donc tous les plaidoyers qu'on fait actuellement avec les différents partenaires, c'est de faire en sorte que nous puissions acquérir un quatrième forage avec un autre nouveau château.
Le gaz domestique se fait rare à Niamey depuis quelques semaines, une pénurie ressentie par beaucoup de ménages. Selon le directeur commercial d'une société de distribution de ce gaz, cette pénurie s'explique à cause des travaux de maintenance engagés par le fournisseur principal, la Soraz. D'autres précisions au micro de Diallo Mariam Kanda.
Il y a de cela 45 jours que la raffinerie de Zender est partie en maintenance. Donc, ils avaient mis en place un stock pour la période de maintenance. Mais malheureusement, ce stock qui a été mis en place ne suffisait pas pour couvrir tous les besoins pendant cette période. Donc, il a fallu faire recours à l'importation depuis le Bénin. C'est là-bas qu'il y a eu quelques difficultés parce que les camions mettaient plus de temps pour relier Cotonou-Niamey après chargement. Aujourd'hui, où on se parle, j'ai des camions qui sont encore stationné au port de Cotonou en attente de chargement depuis 3 semaines. Aujourd'hui, la raffinerie de Zender Soraz a repris donc ses activités. Malheureusement, la logistique fait défaut. Les camions citernes gaz, donc les camions qui sont actuellement en attente de chargement au niveau du port de Cotonou, les camions qui vont au niveau de la Soraz pour charger le produit, la disponibilité y est au niveau de la Soraz, mais pas de camion pour charger.
Ce matin, les députés ont examiné et adopté le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 20 avril 2018 d'un montant de 20 millions de dollars US, soit un peu plus de 10 milliards de francs CFA, entre la République du Niger et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Ce prêt va servir en partie à la construction de la voie express qui va relier l'aéroport Diori au centre-ville de Niamey, dont les travaux ont été lancés hier. Le commissaire du gouvernement, Youssouf Bakay, s'est réjoui de l'adoption de ce projet de loi qui a obtenu 116 voix pour, 2 contre et 0 abstention.
Il y aura donc non seulement le bitumage de 9,53 km de route, mais il y aura également dans ce projet-là des carrefours giratoires, des infrastructures d'assainissement et l'éclairage de la ville de Niamey. C'est un prêt vraiment très concessionnel avec 1% d'intérêt, avec une période de grâce de 10 ans. Donc vraiment c'est un emprunt vraiment très concessionnel et donc très favorable. Le cadre de vie des populations de la ville de Niamey sera amélioré, la circulation sera plus fluide. Il y aura également la protection des populations parce qu'il y aura une sécurité routière avec ces aménagements qui seront dans la ville de Niamey. Donc il y aura d'autres financements qui vont intervenir et ce qui est sûr, il y aura des infrastructures qui seront réalisées d'ici l'UA 2019.
Peu avant l'adoption de ce projet de loi, une question orale a été posée par le député Manzo Limam Amadou au ministre de l'Équipement relativement à la recrudescence des accidents des camions et citernes dans la ville de Gouré et à la sortie en allant vers Diffa sur la route principale. Le ministre Kadi Abdoulaye a affirmé aux élus avoir pris acte et annoncé l'envoi d'une inspection dans un bref délai en vue d'un contrôle technique devant permettre de trouver une solution à ce problème qui serait dû à une pente et la présence du sable sur certaines parties de ce axe de la RN1E. Il a cependant appelé les usagers à un respect strict des règles de sécurité routière et à l'éradication des surcharges. Les épreuves écrites du brevet de fin d'études du premier cycle session 2018 sont prévues pour le 26 juin prochain au Niger. Au niveau des établissements scolaires, l'on s'active pour finir les programmes dans les meilleurs délais, à l'exemple du collège d'enseignement général Yantala 1. Écoutons Imala Maman, directeur du dit établissement au micro de Asuma National.
Au niveau de classe de 3e, Inch'Allah, d'ici la première décade du mois de juin, tout sera terminé. Et même maintenant, il y a des professeurs qui ont pratiquement bouclé le programme. Ils sont dans les révisions.
Pour dire qu'on est à peu près à quel pourcentage à ce moment?
Ça tourne entre 85 et 95%. Ici, au CGI Antela 1, à partir du 1er décembre déjà, nous avons commencé les cours d'appui à nos élèves de classe de 3e. Et ces cours d'appui ont pris fin avril. Même durant la période des grèves des élèves, ici, nous nous sommes arrangés pour qu'il y ait cours au niveau des classes de 3e. La levée du modèle de grève, vraiment, ça nous réconforte beaucoup. Surtout pour nos petites classes. C'est vrai, nous maximisons au niveau des classes d'examen. Mais là où ça fait mal, c'est au niveau des petites classes. Parce que là, les taux d'exécution varient entre 40 et 70%, ce qui n'est pas très gai parce que ces enfants-là, ce sont eux qui vont passer plus tard en 3e.
Les candidats au brevet de fin d'études du premier cycle BEPC session de 2018 qui ont déjà subi les épreuves sportives communément appelées brevets sportifs du 30 avril au 6 mai dernier sur l'ensemble du pays. Selon le directeur national des examens et concours et de l'orientation, tous les candidats qui se sont présentés ont pu concourir. Amarzak Adam d'ajouter qu'il n'y a pas eu de boycott. On l'écoute.
Le brevet sportif, c'est la première étape de l'examen général puisque c'est une partie donc obligatoire qui doit se passer avant les épreuves écrites. Ça s'est passé du 30 avril au 6 mai et selon tout ce que nous ont rapporté nos services techniques, tout s'est bien passé. Tous les candidats, en tout cas qui se sont présentés, ont subi ces épreuves-là. C'est vrai qu'il y a eu des absences, ça c'est tout le temps, ça se remarque, mais nous n'avons pas eu cette précision-là selon laquelle ces absences sont liées à un quelconque boycott de ces examens. D'ailleurs, les examens n'ont pas été boycottés, même s'il y avait un mot d'ordre. Tous les candidats qui devaient passer ces épreuves sportives-là se sont rendus sur les lieux pour les subir. Parce que toutes les dispositions avaient été prises en amont pour que ces examens se déroulent dans de bonnes conditions. Donc, dans toutes les régions, tout s'est bien passé.
Le Niger est classé 30e sur les 60 pays qui ont participé à la 17e édition du championnat du monde scolaire qui s'est déroulé au début du mois de mai 2018 au Maroc. Plusieurs disciplines étaient en compétition, dont le karaté. Selon le coach national, à leur première participation, les jeunes karatékas nigériens ont été performants malgré quelques difficultés rencontrées. Maître Abdulkarimou Issaka, entraîneur national du karaté.
Tous les deux athlètes ont atteint le niveau de la médaille de bronze. L'un a réussi sa médaille. 60 pays ont participé et nous sommes classés 30e. Le Niger est le seul pays d'Afrique noire à participer à cette compétition. En dehors du championnat, nous avons été invités pour une autre compétition, toujours au Maroc. Et un troisième athlète a rejoint les deux autres. Ils ont eu deux médailles en or et une d'argent. Le voyage s'est effectué dans des conditions très difficiles. Les autorités nous ont donné 10 000 francs chacun pour les 10 jours, alors qu'il fallait préparer les athlètes deux mois avant la compétition. Si les autorités nous écoutent actuellement, nous leur demandons un coup de main pour qu'on ait au moins le matériel de cette discipline.
Dans au moins, il y a un matériel complet pour aussi.
Place à présent à la partie magazine. Elle est consacrée à la sécurité dans la région de Diffa où les conditions de vie des populations sont difficiles. On écoute Lawan Maman Makinta, parajuriste de l'ANDDH au titre de la région de Diffa.
Nous avons vécu des périodes très difficiles et actuellement nous sommes en train de vivre dans cette insécurité. Et je vous assure, en tout cas pour qui connaît la région de Diffa, au départ on vivait dans la paix, la solidarité et la quiétude. Et curieusement, à partir donc de 2015, avec donc la naissance de ce mouvement de la secte islamiste Boko Haram, la région a été perturbée. Perturbée en ce sens qu'il n'y a plus de quiétude sociale, le système économique est au chaos. Donc ça a entraîné du coup une situation dans laquelle où vraiment les gens ne peuvent plus se retrouver. C'est pour vous dire que c'était une menace qui a totalement handicapé le mode de vie de la population. Ni le secteur éducatif, ni le secteur économique, rien ne marche. Donc c'est une situation qui est là et qui perdure malheureusement, puisque jusqu'ici, il y a des attaques perpétrées par-ci, par-là. Même si dans la ville de Diffa, on a pu contenir cette situation, aux alentours, l'insécurité y est. La preuve, tous les déplacés aujourd'hui sont là, le long de la R1, quand vous suivez, vous les observez, de mener jusqu'à Ningimi, vraiment c'est la désolation. Donc c'est pour vous dire que vraiment cette situation-là est inquiétante. Donc il faut prendre des dispositions et c'est pourquoi nous appelons d'abord la population à collaborer. Ça c'est le premier élément parce que les forces de défense et de sécurité à elles seules ne peuvent pas venir à bout donc de cette secte. Deuxième aspect, il faut que l'État s'implique. L'État s'est impliqué, mais il faut changer de stratégie. Pourquoi ? Parce que nous constatons qu'on est là en train de gérer cette crise-là à la défensive. Donc, c'est-à-dire qu'il faut mener maintenant l'offensive. Il faut aller où ils sont. Il ne faut pas les attendre. Parce que l'ennemi, il faut le chercher. Quand vous prenez une position, il faut que l'ennemi vienne vers vous pour riposter. Là, ça ne va pas. Donc, il faut les chercher. Il faut les poursuivre. Et on sait où ils sont. Troisième élément, il faut réunir les conditions pour que la paix revienne. Parce que les gens, sincèrement, avec cette situation d'état d'urgence, on est handicapés. On est obligé de prendre le mal en main. Mais aujourd'hui, à partir de 20h, il n'y a aucune circulation de véhicules. À 22h, quel que soit le problème qui vous arrive, vous ne pouvez pas sortir. Vous voyez bien, on a fait 3 ans dans cette situation et on ne sait pas à quand la fin.
Fin de ce journal. Merci et au revoir.